France Inter, le 18-20.
C'est un défi que lance le pape, il le lance à son entourage, au Vatican, aux prêtres, aux évêques, aux cardinaux, il se le lance à lui-même aussi. Un défi de transparence sur les abus sexuels commis dans l'Église. Il le lance sous la pression, des scandales à répétition, mais au moins la prise de conscience, aussi tardive soit-elle, semble bien là. Le sommet anti-pédophilie qui s'ouvre ce jeudi est un événement en soi. Les victimes sont appelées à témoigner pour la première fois dans un tel cadre. Si enfin des choses sont réellement dites, alors ce sera historique. On verra d'ailleurs s'il sort de ces journées un document contraignant, on en parlera, ou si au moins quelque chose se passe. Protéger l'institution d'abord, donc apparemment c'est fini, en tout cas sur le papier. Deux exemples en tout cas sont là pour nous le prouver. Là tout récemment, le cardinal McCarrick qui vient d'être exclu de l'Église catholique, le nonce apostolique à Paris, Luigi Ventura également, qui fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Et puisque les abcès ont besoin d'être crevés, le film de François Ozon, grâce à Dieu, a gagné au moins sa première bataille pour sortir en salle ce mercredi. Nous avons, nous, en France, également une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église qui a commencé à travailler au début de ce mois. Bref, cette semaine change tout, cette semaine doit tout changer, sinon c'est presque à désespérer. On en parle ensemble ce soir, en tout cas, et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Sophie, c'est vous la première. Soyez la bienvenue, Sophie, on vous écoute.
Merci beaucoup. Donc si la question c'est de savoir comment on peut faire avancer les choses concernant la pédophilie dans l'Église ou ailleurs, pour moi, ce qui est la première chose à faire, c'est abolir cette prescription qui protège les agresseurs et abolir la prescription, excusez-moi, je suis un peu émue, pour que les victimes puissent enfin avoir justice. Ça me paraît quand même la moindre des choses. Et la deuxième et troisième élément très très important, c'est éduquer à la sexualité et ensuite, eh bien évidemment, soigner ces hommes et ces femmes qui sont extrêmement malades et désaxés dans leur sexualité. Voilà.
Merci beaucoup Sophie pour cette entrée en matière avec plein de questions en une pour vous répondre, pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir. Isabelle de Gaulmain est là, bonsoir Isabelle, rédactrice en chef au quotidien La Croix. Vous avez été envoyée spéciale au Vatican de 2005.
Oh,
à 2009, oui tous, mais n'exagérons rien. François Devaux est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association La Parole Libérée, association des victimes du père Prénat, en l'occurrence c'est le film dont on parlait à l'instant, celui de François Ozon. Et puis on aura au téléphone sœur Véronique Margron, qui est présidente du COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Bonsoir à vous aussi. Isabelle de Gaulmain, pour commencer, est-ce qu'on sait, parce que Sophie nous parlait de prescription, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il est censé sortir de précis, en fait, de ce fameux séminaire? Est-ce que ce genre d'idée, non à la prescription, peut être mis sur la table? Et puis ensuite, on voit ce que les justices disent. Mais est-ce que ça fait partie des choses qu'on met sur la table?
En tout cas, il est mis sur la table, parce que j'ai vu que ça faisait partie des proposition amenée par un certain nombre d'évêques, notamment d'ailleurs, je crois, les évêques de France, qui plaident pour une prescription. Mais là, on parle de la justice de l'Église et non pas de la justice civile.
Absolument.
Donc c'est un autre problème. Actuellement, la prescription est de 20 ans dans l'Église après les 18 ans de la victime. Et je crois que c'était Monseigneur Pontier, qui est donc le patron des évêques de France, qui disait pourquoi est-ce que cette prescription, finalement, on ne l'enlèverait pas complètement en ce qui concerne l'Église. Donc ça fait partie des choses qui peuvent sortir. Il y a aussi peut-être aujourd'hui, donc il y a des procédures canoniques, c'est le droit de l'Église interne, et il n'y a absolument pas de place pour les victimes, il n'y a pas de statut pour les victimes, et donc on pourrait modifier ça pour que vraiment les victimes soient au centre de la procédure. Voilà, il y a des choses comme ça, mais c'est aussi un problème de mentalité, parce qu'on a bien vu que là aujourd'hui le pape a fait très vite pour destituer McCarrick, qui est quand même un grand cardinal. Donc voilà, quand on veut, on peut en fait, et cette volonté-là, elle manquait jusqu'à maintenant.
Alors la volonté manquait, mais c'est la pression qui parle François Devaux, ou est-ce que réellement, est-ce que la pression finalement finit par marcher, ou est-ce que c'est l'instant finalement qui nous amène à ce genre de choses, et on peut se retrouver comme on l'a déjà fait d'ailleurs l'année dernière, l'année prochaine, en se parlant au fond de la même chose?
Une chose est sûre, c'est que pour le cas de McCarrick, on sait depuis très longtemps en fait qu'il a commis ses abus. Et il y a juste un élément nouveau, c'est la prise de parole de Vigano. Alors peut-être pour des raisons mal motivées, de guérilla interne, ça je n'ai pas le détail. Toujours est-il que ce que cet homme-là a exprimé et a au travers du scandale médiatique qu'il a porté, a dit des vérités. Et aujourd'hui, on peut constater que quelques mois plus tard, le pape François a pris la décision de l'écarter, de le défroquer. Et à chaque fois, en fait, les décisions, c'était pareil au Chili, et à chaque fois, les décisions n'arrivent que sous la pression. Et donc, ça pose la question de l'intention et de la conscience de la problématique.
Et parce que vous parlez du Chili, effectivement, on a cru à ce moment-là, je me souviens des mots qui parlaient de honte, et on a cru à ce moment-là quelque chose s'était débloqué. Et puis, pof, finalement, non. Donc là, à nouveau, et effectivement, il y a ce prêtre, ce cardinal, pardon, défroqué là, quasiment la veille, enfin, en tout cas, le séminaire ouvre jeudi, et ça s'est passé ce week-end. Pardon de le dire comme ça, il fait aussi un peu de marketing, non, le pape, pour son séminaire là-dessus, non? Sérieusement.
Chacun a son point de vue sur la question. Une chose est sûre, que ça fait 30, 40 ans que ça dure et que la problématique est identifiée, et ça fait 30 ou 40 ans que l'Église nous dit que ça y est, elle a compris, elle a pris la mesure du problème et qu'elle a mis en place, et elle se positionne quand même en sachant sur une problématique, et vraisemblablement elle ne met pas en place les garde-fous qui permettront que demain ne se reproduisent pas ces cas-là.
Isabelle Nouvellement.
Oui, je crois que ce qui a peut-être changé, enfin, je suis vraiment d'accord, tout ça s'est fait sous la pression, mais peut-être ce qui a peut-être changé depuis quelques années, en tout cas depuis un ou deux ans, c'est qu'avant, l'Église a dit, bon, on débat, oh là là, oui, finalement, la pédophilie, c'est grave, bon, il faut faire quelque chose. Bon, après, deuxième stade, il faut écouter les victimes. Et là, on a le sentiment qu'ils disent, il faut changer le système. Moi, c'est ça qui me paraît nouveau. C'est-à-dire qu'ils disent, il y a des garde-fous à faire, mais il y a aussi un système avec des prêtres qui sont au-dessus de tout le monde, qui sont dans un espèce de voilà, qui sont sacralisés, que les catholiques n'osent jamais dénoncer, qui sont dans un entre-soi terrifiant. Et donc, c'est ça qu'il faut changer, c'est revoir la position du prêtre, revoir non seulement sa formation, mais comment est-ce qu'il agit, etc. Donc, revoir le rôle du prêtre dans l'Église.
Ouais, la grosse différence qu'il y a par rapport à avant, c'est que aujourd'hui, la parole des victimes est crédibilisée. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on jouait la stratégie de l'édredon. Et aujourd'hui, c'est l'humanité tout entière avec des autorités publiques locales qui viennent enquêter sur les affaires de l'Église, ce qui lui est très désagréable. Et donc, c'est inversé un jeu de pouvoir entre cette Église qui ne faisait pas le travail. Et aujourd'hui, on donne du crédit à la parole des victimes. Et c'est en ça que cette conscientisation globale contraint l'Église et le Vatican et le Pape à agir.
Sœur Véronique Margron, je vous ai pas oublié, pardon, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Ce changement de système dont parle Isabelle de Golemin, vous êtes d'accord avec ça? Il se passe réellement quelque chose de différent cette fois-ci?
Écoutez, en tout cas, on ne peut que l'espérer et tenter de le croire, parce que sinon, en effet, comme vous le disiez au début,
il y a de quoi désespérer. Ouais.
Je serais vraiment à désespérer si ça n'était pas le cas. Je crois que ce qui se passe, c'est une prise, enfin, je ne sais pas si c'est une prise de conscience, mais en tout cas, la révélation que tous ces abus, toute cette pédocriminalité a reposé en grande partie sur une mécanique du silence. Et que cette mécanique du silence, l'Église en est responsable et personne d'autre. Et donc, je pense que c'est cela aussi que le pape François, aujourd'hui, avec d'autres, tente de mettre à jour, hein, et contre laquelle il tente de lutter, de dire, bien sûr, on ne peut pas considérer que les crimes de pédocriminalité seraient seulement des actes isolés d'un certain nombre de pervers, de criminels, de délinquants sexuels, mais qu'ils ont été parfois couverts, parfois déniés, parfois avec des complicités. En tout cas, que ces hommes, pour un certain nombre d'entre eux, ont pu sévir durant des décennies, et que ceci relève de la responsabilité de l'institution ecclésiale.
Est-ce que l'institution, comme vous dites, Sœur Véronique Margron, a aussi peur au fond que les fidèles décident de claquer la porte, et au fond ça compte, l'image? Est-ce que c'est aussi ça qui pousse à aller dans la direction d'agir enfin concrètement?
Je ne sais pas, j'espère que non. Enfin, je pense que la honte est telle, enfin quand même, ce séisme est tellement fort, et seule l'Église en est responsable, personne d'autre là, elle ne peut accuser personne qu'elle-même et ses propres membres. Donc j'ose penser que ça se suffit à soi-même. Maintenant, bien sûr que ça peut faire partir des chrétiens, des catholiques, et on ne pourrait malheureusement que le comprendre. Et en même temps, on sait bien combien parfois, Isabelle peut le raconter longuement, combien des communautés chrétiennes elles-mêmes
des paroisses ont été plus ou moins prises dans ce jeu du silence, dans ce jeu macabre en quelque sorte. Hein. Donc on voit bien que ce sont des réformes en profondeur et parfois qui à la fois touche à la prévention, touche à la formation, mais qui touche aussi à la structure de l'Église, à la façon dont elle est organisée, à la façon dont elle organise des contre-pouvoirs, sur qui peut vérifier les actes d'un prêtre, qui peut vérifier les actes d'un évêque. C'est toutes ces questions-là qui, aujourd'hui, sont mises sur la scène et que nous devons absolument prendre en considération dans l'Église.
Et du coup, Isabelle de Golemin, avant qu'on retourne au standard, quand on parlait de contre-pouvoir là à l'instant, qui freine toujours ? Qui, là, n'est pas du tout content de ce qui va se passer jeudi au Vatican, par exemple ?
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de prélats pour qui... Voilà, il faut surtout rien changer parce que l'Église est sacrée, l'Église est sainte, ce qui est une mauvaise interprétation de cette. Quand on dit l'Église est sainte, il s'agit pas de l'institution. Mm-hmm. Donc il faut surtout pas mettre en cause ça. Et puis je crois qu'il y a aussi, il faut pas oublier que l'Église c'est dans le monde entier, hein, c'est 1,2 milliard de personnes, mm-hmm. et notamment dans des continents comme l'Afrique ou l'Asie, ce travail de vérité n'est pas encore fait. Nous on a interviewé là le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Qui dit, oh non, mais moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun abus sexuel.
J'allais dire, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Donc là, je crois que ce soit d'ailleurs sur des mineurs ou sur des femmes, pourtant, on sait qu'il y a des choses. Donc, voilà. Là, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à faire ce travail. Et je crois que c'est pour ça, c'est vraiment la première fois, hein, depuis 1962, depuis le Concile, que le pape réunit tous les évêques du monde entier. Alors, pas un évêque par pays, mais tous les pays seront représentés. Et c'est vraiment pour ça, c'est pour au moins que cette conscientisation commence à se faire.
Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, Marie.
Je suis assez émue de vous parler. Je vais essayer d'être claire.
Allez-y.
Je me réjouis, bien sûr, Et puis je salue le courage des victimes et de toutes les personnes qui ont fait en sorte qu'enfin il se passe quelque chose par rapport à ce gravissime problème. Je me demandais aussi si c'était pas l'occasion pour l'Église, mais je pense aussi à d'autres religions, de s'interroger profondément sur leur rapport à la sexualité en général. Et puis je voulais signaler aussi qu'il y a un état d'esprit... beaucoup chez les croyants, les catholiques, que j'ai moi-même vécu dans ma jeunesse, ayant été élevée dans une famille croyante, qui est que la victime, la première chose qu'on demande à la victime d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles, que ce soit par des religieux ou d'autres personnes, c'est de pardonner. Mmh. Et on fait tout de suite appel à la justice de Dieu, plutôt qu'à la justice des hommes. Voilà. Et il y a beaucoup de culpabilité. Et je crois qu'il y a, c'est un état d'esprit encore de beaucoup de croyants.
Merci beaucoup Marie pour ces questions, votre vision des choses là-dessus, votre réaction François Deveau. D'abord sur effectivement le fait que ce qu'on demande aux victimes, ce qu'on demande aux enfants d'abord, c'est mais il faut pardonner parce que c'est comme ça qu'on a tous été élevés dans cette religion en fait.
Ouais, en même temps on a un bon exemple avec le cas de Prena et le cas de Régine Maire qui viennent de faire un référé. Mmh. Et même le procès Barbarin où le silence a été tenu par les hommes qui se sont présentés devant la justice. Donc voilà, le cardinal Barbarin a d'ailleurs repris le juge en disant non, je n'ai pas dit abuser, j'ai dit abîmer. Pendant 10 heures d'audition, il avait un souvenir très précis de ce qu'il avait dit. Ça veut dire s'il a relu précisément sa déposition et s'il a fait attention à ce qu'il a dit. Donc on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures entre la justice de Dieu à laquelle il prétend répondre et revenir très vite sur un aspect très républicain, une justice très terre à terre pour...
Mais ce fameux pardon dont parlait effectivement Marie, c'est un pardon dans la justice de Dieu, c'est vraiment ça qu'on fait référence, non ? Vous ne croyez pas que à chaque fois c'est comme ça que ça se passe ?
Oui, encore une fois, cette Église vient poser des normes dans les consciences des gens, qui viennent ouvrir leur âme dans une quête de sens dans leur existence, et je trouve ça très pervers, et quand on cherche du sens dans son son existence, on se met dans une position de vulnérabilité qui est très, très dangereuse, et on est dans une démarche de confession, d'adoration, et il est très facile pour quelqu'un de malveillant qui est positionné en directeur de conscience de venir prendre la main sur cette âme-là. Et je trouve ce mécanisme-là très pervers, et c'est probablement l'origine de la problématique.
Sœur Véronique Margron, dans la première partie de la question de Marie, il y avait l'idée du rapport à la sexualité. Je me souviens qu'on a déjà posé cette question ici au téléphone. Moi, à chaque fois, ça m'intrigue. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait parler à des jeunes séminaristes, à des jeunes femmes qui vont rentrer dans les ordres? Est-ce qu'on parle de sexualité, ou est-ce que c'est quelque chose d'intégralement tabou? On ne parle de rien du tout.
Alors non, on parle de sexualité, on parle de vie affective, on parle de sexualité, on parle du célibat, puisque c'est ce qui, le mode de vie qui concernera les religieux et religieuses, bien sûr, mais aussi les prêtres. Donc on en parle. Maintenant, vous dire comment on en parle partout, ça c'est extrêmement difficile. Donc il y a partout, en principe, en tout cas en France, je ne me prononcerai pas pour le monde entier, bien sûr, hein, mais il y a des cours dans tous les séminaires, dans les noviciats, concernant ces questions. Maintenant, encore faut-il mettre des mots sur les choses, encore faut-il permettre aux jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, en formation, qui souvent ont eu des vies avant, bien sûr, hein, qui ne débarquent pas en sortant de la classe terminale, et même là d'ailleurs. Donc la question est après comment on leur donne la parole, comment on écoute leurs questions, leur expérience de vie, et ça... C'est extrêmement divers, bien sûr. Mais oui, non, il y a un enseignement, on ne peut pas du tout dire le contraire. Maintenant, est-il suffisant? Sans doute pas. Et puis, une chose est d'avoir un enseignement au début de sa formation, hein, comme prêtre ou comme religieux, religieuse. Autre chose est que cette question qui, par définition, est de toute notre vie, de toujours à toujours, celle de la sexualité, continue d'être accompagnée, en particulier dans les crises de la vie. Dans les moments de grande fragilité, quand on perd ses parents, quand on est en échec. Donc c'est aussi ça la question qui se pose, c'est que souvent, les études le montrent, hein, les pédocriminels dans l'église ont souvent des personnalités qui sont immatures pour un certain nombre d'entre eux. Donc c'est aussi comment sont accompagnés ces moments-là.
Isabelle de Golemin qui voulait intervenir, parce que la question sur le célibat des prêtres, elle est arrivée 8 secondes après le début de l'émission.
En fait, je voulais revenir sur la misérie, sur le pardon de la question de Marie, c'est important, et c'est vrai que le film de François Ozon montre très très bien ça, que effectivement tout de suite on veut que la première victime qui a dénoncé, Alexandre, pardonne. Et c'est vrai que moi je me souviens très bien quand j'avais été discuté avec le cardinal Barbarin, quand j'ai écrit un livre sur cette affaire-là, il m'avait tout de suite dit mais il y a la miséricorde, et je lui ai dit mais enfin il n'y a pas de miséricorde sans justice. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église catholique, c'est de confondre deux plans. Il y a la justice, et c'est super important, et on ne peut pardonner qu'une fois que la justice est faite. On ne peut pas pardonner de manière aveugle comme ça. Donc là, je crois qu'effectivement, l'Église a travaillé cette question du pardon, et à ne pas comme ça interférer, comme le dit très bien François Deveau, dans la conscience des gens, pour les forcer à faire des choses, alors qu'il n'y a pas eu de justice, qu'il n'y a pas eu de vérité. Ce qui est quand même important, c'est que c'est la vérité, et c'est la vérité qui rend libre. C'est une phrase de l'Évangile.
Je voudrais quand même revenir juste une seconde sur cette histoire d'éducation à la sexualité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. D'éducation à la sexualité. En effet, comment ça, je veux dire, est-ce qu'on est capable de mettre des mots dessus, pardon, mais désir, sexe, masturbation, allons-y. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est capable de dire ces choses à deux jeunes prêtres, et même au cours d'ailleurs de leur vie de prêtrise, ou pas du tout?
Je crois qu'on le dit maintenant. Je suis pas sûr qu'on soit tellement plus capable pour des jeunes en général. Je suis pas sûr que soit tellement meilleur non plus dans les universités, etc. Parce qu'après tout, c'est tout le monde qui est concerné par ces problèmes-là. Je crois qu'on le dit, mais alors peut-être le problème, c'est que effectivement, du fait du célibat, parce qu'on pose toujours cette question, a priori, il n'y a pas une relation de cause à effet directe, puisqu'il y a beaucoup de cas d'inceste dans les familles, etc. Ceci dit, du fait du célibat, les prêtres se trouvent assez seuls, très solitaires, c'est ce qu'on voit beaucoup, ou alors entre eux, entre hommes, et donc avec cette incapacité d'en parler. Donc effectivement, là, il y a peut-être quelque chose à changer de façon à ce qu'il y ait plus...
Donc ça parle d'immaturité sexuelle, en fait.
D'immaturité, plus... et puis de pouvoir changer, et puis des gens qui peuvent les regarder aussi. C'est-à-dire que peut-être que s'il y avait plus de femmes dans l'entourage, ou que si c'était pas qu'un entourage d'hommes célibataires, il y aurait peut-être des garde-fous qui se feraient plus naturellement en disant « Oh là là, là tu es en train de dériver, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer ».
Vous vouliez ajouter quelque chose, François Devaux, là-dessus, non ?
Oui, la sexualité, probablement qu'on en parle, mais l'Église, surtout, elle la norme, la sexualité. Mmh. Et il est peut-être là le souci, c'est que l'Église nous dit quelle sexualité avoir. Elle nous parle d'une sexualité de procréation, et elle a une position sur la sexualité qui est assez chaste, et c'est peut-être là, déjà, la première des problématiques. La sexualité, l'Église nous parle de la masturbation comme un acte de luxure. Mm-hmm. On sait bien sa position sur l'homosexualité, même si celle-ci a été un peu révisée par le pape François, mais voilà, elle a quand même une position très chaste par rapport à tout ça. Et c'est probablement ce qui permet de faire de cette église une terre d'accueil pour des personnes qui sont en souffrance dans leur sexualité. Et donc, il n'y a pas un lien de cause à effet direct, mais le fait est que, c'est d'ailleurs ce que défend Frédéric Martel dans son livre, c'est qu'il y a une homosexualité très forte au sein de cette institution. Sans le condamner, il faut peut-être savoir pourquoi. Et sur le célibat des prêtres, je crois qu'il faut bien préciser ce que c'est que le célibat des prêtres. On ne compare pas le célibat de la prêtrise avec le fait d'être célibataire dans la vie laïque. Être célibataire pour un prêtre, c'est toute une démarche personnelle dans la gestion de son propre désir, ses propres pulsions et son attrait à cette sexualité pour laquelle on est quand même, c'est quand même notre première programmation génétique que de pérenniser l'espèce et nous reproduire. Donc, il faut pas mélanger le célibat des prêtres avec le fait d'être célibataire dans la vie laïque, ça n'est pas comparable.
Et Isabelle de Golemin, puisqu'on l'a évoqué, le fameux livre de Frédéric Martel sur la présence très nombreuse d'homosexuels au sein du Vatican. La chose que ça interroge réellement, c'est le discours officiel de l'Église sur l'homosexualité et ce qui s'y passe derrière.
C'est le problème de la cohérence. Ouais. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis bien d'accord avec François Devaux. Je pense que déjà l'Église devrait un peu plus se taire sur la sexualité et arrêter de dire aux gens ce qu'il faut faire. Mmh. D'ailleurs, le pape François, de ce point de vue-là, il se tait. Il n'est pas du tout en train de servir un discours moral. Après, le second problème que ça pose au Vatican, effectivement, moi, j'ai vécu 4 ans, donc j'ai pu constater à peu près la même chose que Frédéric Martel, peut-être de manière moins exagéré que ce qu'il fait. C'est un problème de cohérence et puis de fait de silence. C'est encore ce fameux secret silence. On ne dit rien, on fait des choses. Aujourd'hui, l'Église, elle est vraiment face à ce problème de vérité entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Et de ce point de vue-là, la crise, elle est salutaire.
Sœur Véronique Marcon, et ensuite on retourne au standard. Allez-y.
Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Isabelle de Golemin et François Devaux. C'est-à-dire, je pense que la première question ou la première réflexion que pose tout cela, c'est en quelque sorte une longue cure d'humilité, quoi, pour l'Église, c'est-à-dire vraiment devenir modeste dans tous nos propos, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir des convictions, mais par pitié, être modeste, tenter d'être d'abord cohérent avant toute autre chose. Et puis, oui, se sentir humble, en quelque sorte, hein, dans ce que nous essayons de proposer après comme chemin de vie bonne à d'autres. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il me semble que la question de la sexualité pose plus largement la question de la responsabilité. C'est-à-dire comment, dans la croissance de la formation, qui dure très longtemps, en particulier pour un prêtre, hein, qui dure au moins 7 ans, comment est-ce qu'on va se rendre compte que la personne qui est en formation ne joue pas un rôle, n'est pas en train d'apprendre à jouer au bon prêtre, au bon religieux, mais vraiment est suffisamment elle-même pour qu'on puisse déceler ce qui serait des fragilités, comme elles sont inhérentes à toute vie, mais pour qu'on puisse l'épauler, les accompagner, et puis comment elle se rend responsable de ce qu'elle fait dans la vie, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle désire être et de ce qu'elle fait. Je pense que ce point de la responsabilité me paraît tout à fait fondamental par rapport à la crise énorme que nous traversons. Et puis dernière chose, le fait, comme le disait Isabelle de Golemin, vraiment d'introduire des tiers, c'est-à-dire que l'Église a besoin d'intégrité dans tous ses milieux, et en particulier dans celui de la formation.
Il y a une question qui parle de l'organisation même de l'Église catholique, c'est Francis qui est à Villejuif et qui la pose, et qui parle notamment du rôle des femmes, par exemple, faire entrer plus de femmes. Alors, je ne sais pas de quel poste on parle, mais peu importe, c'est aussi l'idée d'Isabelle de Golemin de mélange, de savoir ce qui se passe autour, en fait, de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur de ce saint des saints, sans mauvais jeu de mots.
Il y a du travail, ceci dit, ce que j'ai regardé tout à l'heure, le déroulé des 3 journées là, qui vont se passer à Rome autour du pape et de la pédagogie. de criminalité. Il y a beaucoup d'interventions de femmes. Donc ça, c'est nouveau que des évêques hommes écoutent des femmes et apprennent des femmes. C'est déjà un petit premier pas. Après tout, le problème dans l'Église catholique, c'est que vous avez une totale superposition entre l'ordre, c'est-à-dire le fait d'être ordonné prêtre, et l'autorité. Ne peuvent avoir un rôle d'autorité que des gens qui sont prêtres. Donc, par définition, que des hommes, puisque les femmes ne peuvent pas être prêtres. Donc voilà. Et du coup, vous avez des femmes nulle part dans les organes de hiérarchie, et surtout au Vatican. Moi, j'ai passé 4 ans, je n'ai interviewé aucune femme. Donc c'est vrai que ça fait bizarre au XXIe siècle. Donc voilà. Bon, donc là, il y a effectivement du travail. Et je pense, de fait, l'altérité, c'est pas que les femmes sont meilleures que les hommes. Mmh. Simplement, l'altérité, que d'ailleurs l'Église prône, elle n'arrête pas de nous parler d'altérité, notamment au moment du mariage pour tous. Cette altérité-là, il faudrait qu'elle existe au plus haut des institutions. Bonsoir, José.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, José. On vous écoute.
Je vous remercie. Merci de prendre ma question. Nous avons voyagé un petit peu dans les pays de religion orthodoxe, où les prêtres ont le droit de se marier, d'avoir une épouse, d'avoir des enfants. Je voudrais savoir si vous pouvez me confirmer qu'il y a moins de cas de pédophilie dans la religion orthodoxe, et pourquoi ne pas faire un petit effort au niveau de l'Église pour effectivement débrider un petit peu ce célibat des prêtres.
Merci beaucoup, José, pour votre question et votre intervention. Est-ce qu'on sait, Isabelle de Golemin, si il y a moins de cas, par exemple là pour le coup chez les orthodoxes et même dans les autres religions?
C'est compliqué parce que je suis pas sûre que les pays d'orthodoxie, il y a eu le travail de vérité que commence à faire quand même un petit peu l'Église catholique. Par exemple pour l'Église presbytérienne, enfin des églises protestantes classiques, hein, presbytériennes ou anglicanes, il y a aussi des cas de pédophilie. Alors peut-être qu'ils sont moins tus, moins longtemps, qu'il n'y a pas ce silence qui est quand même assez étouffant, très hiérarchique.
Parce qu'il y a une hiérarchie moins lourde,
oui,
en fait.
La hiérarchie
aussi,
est moins lourde, hein. Tout ne répond pas comme ça au pape.
Pas aussi vertical, ouais.
Et puis après, je pense que souvent derrière l'abus sexuel, enfin il me semble, mais François Deveau pourra en parler mieux que moi, c'est un abus de pouvoir, quoi. Et voilà, il y a aussi des popes orthodoxes qui ont beaucoup de pouvoir sur leurs ouailles, hein, quand on lit Dostoïevski, on voit bien. Donc voilà, il faut peut-être être prudent. En tout cas, ça ne peut que améliorer les choses, qui est effectivement plus d'altérité. Faut-il que les prêtres se marient? De toute façon, c'est sûr que ce n'est pas un dogme. C'est-à-dire que c'est une, on appelle ça une mesure disciplinaire qui a été prise à une époque où on trouvait que les prêtres mariés se comportaient n'importe comment, donc ça date. Et en fait, le pape pourrait très bien donner la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés. Ce n'est pas du tout un dogme dans l'Église catholique. Ceci dit, le pape François a dit qu'il ne le ferait pas, a priori.
Ben, si c'était le cas, ce serait la révolution de chez Révolution, François Deveau, sur le côté pouvoir, en effet, le pouvoir de l'autorité du prêtre, c'est aussi ça qui fait des cas comme tous ceux qu'on évoque aujourd'hui.
Moi, je crois qu'il faut distinguer la pédophilie de la couverture de la pédophilie, qui est deux choses différentes. La pédophilie, elle a toujours existé, elle existera toujours. Ce qui est très particulier, très endémique dans l'Église, c'est que on couvre cette pédophilie. Et ça, il faudrait peut-être essayer de savoir pourquoi. Parce qu'on a beaucoup de théologiens qui réfléchissent sur beaucoup de choses, mais pas sur ces questions-là. Et ça reste aujourd'hui quand même le premier problème de l'Église depuis quelques décennies. De toute évidence, le pouvoir a un lien très fort avec ça. Et d'ailleurs, Jésus, quand il est dans les airs, il nous l'a bien appris. Et ils l'ont un peu oublié, ces gens-là. Mais l'Église, aujourd'hui, n'est que pouvoir. Le Vatican n'est que pouvoir. Un évêque dans son diocèse n'est que pouvoir.
Bonsoir, Hélène.
Oui, bonsoir.
Et c'est normal qu'il y ait du décalage parce que vous nous appelez d'extrêmement loin. Hélène, vous êtes au Bahreïn en ce moment. Soyez la bienvenue au téléphone sonne.
Oui. Merci pour vos émissions.
Allez-y, Hélène.
J'ai été élevée, je suis rentrée à l'âge de 7 ans dans une école religieuse très célèbre en France, un couvent, qui à l'époque, en 71, était dirigée par des religieuses. Et en fait, dès ce moment-là, on est éduqué dans un carcan. On n'a pas le droit au questionnement. Les choses, elles sont telles qu'on nous les présente, on les accepte telles qu'elles sont. Et le moindre questionnement, c'est « mais comment oses-tu questionner ?» Il y a Dieu et Jésus et Marie qui te regardent. Il va falloir que tu fasses pénitence, il va falloir que tu ailles te confesser. Et donc le problème des prêtres pédophiles, à mon avis, il n'est pas seulement un problème d'individus qui sont en manque sexuel. c'est le problème de toute une institution catholique qui refuse aux gens le droit d'être ce qu'ils sont ou de devenir ce qu'ils vont être. C'est une frustration de l'humain depuis le plus petit âge.
Merci beaucoup Hélène, pardon de vous interrompre assez vite parce que la liaison est assez mauvaise, mais on a bien compris l'essence de ce que vous nous disiez. Isabelle de Golemin veut d'ailleurs intervenir, Isabelle.
Oui, enfin non, je répondrai à Hélène que effectivement il y a eu ça. Et
alors voilà, fait, 1971, voilà, dites-moi que ça a un peu changé par rapport à Hélène.
Oui, mais même moi, parce que je suis pas non plus toute jeune et moi j'ai connu une église qui m'a rendue libre, donc voilà on a tous des expériences diverses. Ce qui est vrai, je pense, c'est que l'église a un petit peu oublié l'évangile. Et que là, ça serait bien qu'elle y revienne au niveau de la sexualité. Par exemple, l'évangile, c'est quoi? C'est la femme adultère. Jésus qui dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ouais. Bon, si on avait fait ça un peu plus, plutôt que d'abreuver les gens de sanctions et d'interdits, on n'en serait sans doute pas là. Mais voilà, je trouve que les choses changent. Dans l'Église aujourd'hui, je pense que, en tout cas en France, les gens se sentent libres. Il n'y a plus comme ça cette espèce d'interdit qui pèse. Mais c'est vrai que cette histoire-là, elle est encore très présente et on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'Église, ça a été ça, et du coup il y a une espèce de réaction un peu épidermique.
Sœur Véronique Margron qui voulait intervenir, effectivement l'image vue de l'extérieur reste quelque chose d'extrêmement austère, extrêmement dur, extrêmement autoritaire. Dites-moi que c'est différent aujourd'hui, Véronique Margron.
Ah oui, ça je peux vraiment vous le dire. Autant il y a des choses, il faut le dire avec prudence, autant là vraiment je peux vous le dire. Non, profondément. Je pense que ce qu'a vécu cette dame est absolument tragique et honteux. Alors, faudrait le resituer dans le contexte, mais vraiment, en tout cas, vu de nos yeux d'aujourd'hui, inexcusable. Hein. Aujourd'hui, j'ose croire que dans l'Église, on soutient et on forme à l'esprit critique, à la capacité au doute, vraiment à quitter la soumission, vraiment. Enfin, l'Évangile est fait pour rendre libre. Enfin, et je pense que cela, c'est une véritable problématique qu'il faut pouvoir tenir dans l'Église, en particulier dans la formation des religieux et des religieuses, mais aussi, comme le disait cette dame, dans les écoles, hein, où il y a des enfants et des jeunes, c'est-à-dire comment on éveille, comment on soutient la liberté des personnes, et que cela, c'est un, je sais pas comment vous dire ça, moi, c'est un devoir humain d'abord et chrétien par-dessus le marché, parce que pour nous chrétiens, vraiment, enfin, l'Évangile rend libre et en aucun cas ne ferait taire ni la conscience ni l'esprit critique, en aucun cas.
François
Donc là, je pense que ça veut dire que nous avons encore du travail.
François Deveau.
Oui, en même temps, on dit que l'Église a changé, mais on a eu un exemple il y a pas si longtemps avec le cas de Pierre Vignon, qui a pris la parole et qui a dit des vérités et qui s'est fait retirer sa charge de juge ecclésiastique dans un silence assourdissant de l'ensemble du clergé et des fidèles de l'Église. Et donc, quand un homme prend la parole comme ça, il se fait écarter. Donc, je suis pas sûr que c'est tant que ça a changé. On essaye de nous le faire croire, mais les faits démontrent l'inverse, je crois.
Bonsoir Jean.
Oui.
Vous êtes là Jean, on vous écoute, allez-y.
Oui, je suis là, oui. Ben, je voudrais revenir sur le propos de votre intervenante qui disait donc on parlait de sexualité. Donc moi j'ai passé une année, c'était sous la tutelle de Monseigneur Lustiger, donc quand même cardinal. Et donc je n'ai jamais entendu parler de sexualité.
Donc c'était pas hier aussi Jean, par ailleurs, c'était quand?
Bah, j'ai pas de date parce que moi je suis très jeune et j'ai pas la mémoire des dates. Mais donc c'était il y a quoi 20 ans disons. Et donc jamais on n'a parlé de sexualité pendant cette année de préparation au séminaire.
Et de célibat, de tous ces thèmes qui tournent autour en fait, pas du
jamais,
tout non plus ou pas?
Non, pas une seule fois. J'ai même eu. On a eu des conférences de Monseigneur 23, qui est donc archevêque de Paris, et je n'ai pas eu non plus aucun propos sur ce sujet.
Et Jean, une dernière question, pardon, avant de vous laisser partir. Est-ce que ça vous a manqué? C'est-à-dire, vous en parliez entre vous et vous aviez des questionnements entre vous?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. On était une quinzaine, 15-20 candidats, et non, jamais ce sujet n'est abordé.
Merci beaucoup Jean pour votre question. Encore une fois, c'était il y a 20 ans, Isabelle de Golemin.
Oui, il faut espérer que ça ait changé. Mais peut-être aussi c'est la première année et puis après. Enfin, je pense que quelqu'un qui aujourd'hui se destine à être prêtre ne peut pas ne pas en parler. Après, il y a plein de lieux où il peut en parler. Hein. Il y a quelqu'un qui le suit. Il y a les maîtres du noviciat. Il y a tout ça. Donc voilà, il faut espérer qu'on en parle aujourd'hui. Enfin, moi j'espère. Je crois quand même que depuis quelques années,
années, la conférence des évêques a fait beaucoup d'efforts pour que la formation soit beaucoup plus profonde, approfondie et ajustée là-dessus.
Pour moi, c'est à l'image de ces enfants qui sont victimes et qui ne le disent pas à leur premier référent affectif, à leurs parents. S'ils ne le formulent pas, on leur fait le reproche. Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Mais la question, c'est pas celle-là. C'est pourquoi votre enfant ne vous l'a pas dit ? Peut-être parce que vous n'avez pas été suffisamment accueillant à cette écoute et crédibilisant dans l'écoute. Est-ce que vous avez offert un cadre dans lequel on puisse libérer la parole et exprimer les choses ? Est-ce que l'Église aujourd'hui propose ça de par les positions qu'elle tient par rapport à la sexualité ? On l'a vu encore récemment, elle s'investit dans un débat sur la GPA, et c'est pas le sujet ici, mais est-ce que on peut estimer que l'Église offre un territoire où la parole est libre ? Je suis pas si sûr.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle de Golemin. Sur quel terrain, au fond, l'Église a plutôt intérêt à ne rien dire, et sur quel autre terrain elle est autorisée?
Ce que dit assez bien le pape, semble-t-il, il dit on n'a pas à donner une hiérarchie comme ça, des normes à imposer aux gens, des choses qui viennent de l'extérieur. Par contre, l'Église est là pour accompagner, prendre les gens là où ils sont et faire un bout de chemin ensemble. Je crois que c'est vraiment un changement de posture de l'Église par rapport aux gens. Et de toute façon, aujourd'hui, entre nous, en plus, il dit quelque chose, elle n'est pas écoutée. Donc il faut arrêter.
Mais elle ne l'est plus. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'a plus d'influence.
Mais c'est sûr qu'elle vit sur des siècles de tradition où voilà, la parole de l'Église comptait dans la société. De toute façon, aujourd'hui...
Mais est-ce qu'elle imagine qu'elle a encore un poids qu'en fait elle n'a pas ? Est-ce qu'elle rêve sur le poids qu'elle a ? En tout cas, chez nous, en Europe, on va dire, parce qu'effectivement, les Églises sont différentes si on va en Afrique, en Asie ou ailleurs, mais est-ce qu'elle croit qu'elle a encore cette influence-là, l'Église, de toute façon, et en fait, elle ne l'a pas ? Ou l'a-t-elle encore un peu quand même ?
Non, je pense qu'effectivement, enfin, il me semble qu'elle est quand même à peu près lucide, en tout cas en France. Sur l'influence qu'elle peut avoir. Après, c'est vrai qu'il y a une espèce de sympa réflexe pavlovien. Il faut que les évêques fassent un communiqué sur tel ou tel sujet. Et je crois que c'est, encore une fois, c'est effectivement ce que le pape dit et demande aujourd'hui à l'Église. Ils disent, vous n'êtes pas là pour faire une douane, dire aux gens de passer ou pas passer. Vous êtes là pour être un hôpital de campagne, accueillir les gens où ils sont et aller avec eux.
Tiens, cette question de Yves, Paris 4e, qui fait référence au cardinal qui a été défroqué, comme on dit. Pourquoi se contenter de défroquer et ne pas aller jusqu'à excommunier? Défroquer est une sanction pas assez lourde. Moi, j'avoue que j'y connais rien là-dessus.
Non, il est aussi excommunié.
Voilà, ça va
plus loin qu'excommunication, parce qu'en plus, il ne peut plus dire qu'il est prêtre. Il n'est ni plus alors que les autres cardinaux qui avaient avant fait des choses, notamment celui de l'ancien de Vienne, on les avait juste mis dans un monastère en disant bah maintenant vous taisez.
Il a même pas le droit à un monastère par exemple
je pense qu'il faut pas être inquiet là-dessus, il a à mon avis assez d'argent, mais par contre mais c'est vrai, il y a des articles là-dessus des États-Unis qui montraient qu'il y avait pas de souci, mais en revanche il ne peut plus se dire prêtre, ce qui est quand même pour lui en tout cas à mon avis quelque chose d'assez dur.
Sœur Véronique Margron, qui voulait intervenir. Il nous reste peu de temps, mais allez-y, je vous écoute.
Non, moi, ce que je dirais simplement, c'est qu'il me semble que pour pouvoir lutter contre la pédocriminalité et les abus sexuels, c'est toute la chaîne des abus qu'il faut regarder en face. C'est-à-dire, qu'est-ce qui favorise dans l'Église, comme ailleurs d'ailleurs dans la société, mais particulièrement dans l'Église, les abus de pouvoir ? Qu'est-ce qui va favoriser les abus de conscience ? Qu'est-ce qui va favoriser un abus spirituel ? C'est-à-dire quelque chose où, au nom de Dieu, je me saisis d'un pouvoir contre l'enfant. Parce qu'on sait bien que dans l'Église, tous ces abus sont liés et que les abus sexuels n'interviennent pas sans que d'autres abus auparavant aient été commis. Et donc, c'est toute cette chaîne qu'il nous faut prendre en compte et dans laquelle la question du sacré, la question de Dieu, bien sûr, intervient pour beaucoup. Et ceci est bien évidemment une spécificité de ces crimes commis du sein de l'Église, comme peut-être d'autres religions.
François Deveau, rapidement, pour ce fameux séminaire qui commence jeudi, qu'est-ce qui ferait un séminaire réussi et qu'est-ce qui en ferait quelque chose de raté selon vous ? Qu'est-ce que vous voulez entendre réellement avant dimanche soir ?
Je crois que c'est l'Église qui a la réponse à ces questions. Je crois qu'elle pourrait peut-être s'appuyer sur des paroles comme ça de sœur Véronique Margron qui sont pleines de sens. Peut-être qu'elle sera candidate au prochain pontificat. Ça ferait du bien. Ce serait une belle opération.
Allez, Véronique Margron, pape, on est parti. Comme ça, c'est fait. J'espère que vous êtes au courant, madame Margron. Merci beaucoup et portez-vous bien.